et bienvenue sur le podcast Texas Mama Blog Expat. Dans 3, 2, 1, on y va! Plusieurs raisons peuvent motiver une personne à avoir envie de partir. Certaines le feront pour une longue période, alors que d'autres choisiront une option un peu moins drastique. C'est ce qu'a choisi de faire l'invité du jour, Pierre-Olivier, alors qu'il se trouvait dans une spirale vers le bas et qu'il était brûlé. Il est parti en road trip de plusieurs mois avec sa femme et leurs 3 jeunes enfants. De cette aventure ont découlé plusieurs projets incroyable. C'est un épisode autant inspirant sur sa magnifique histoire que rempli d'informations super pertinentes et d'outils importants en ce qui concerne la comptabilité et le monde du nomadisme numérique. Bonne écoute! Bonjour Pierre-Olivier, comment vas-tu?
Ça va super bien, toi?
Ça va très bien. Merci. Merci d'être là sur le podcast avec nous aujourd'hui en direct de quel endroit?
De la Californie. Donc, je suis à Palm Springs présentement.
Génial. Puis, ce qu'on sait, c'est que Pierre-Olivier Desrosiers vient du Québec, est résident du Québec. Mais là, tu te trouves, depuis que je te connais, ça fait pas très longtemps, tu te trouves un peu partout aux États-Unis avec ta famille. Donc, j'aimerais que tu me racontes un petit peu là, comment ce projet-là s'est présenté dans votre vie et comment c'est ça que vous vivez cette expérience-là aujourd'hui.
Ça a commencé là, presque 2 ans en soi. Ma femme venait d'accoucher de notre 3e, donc mon gars avait 4 mois à ce moment-là. Nos enfants, pour faire une courte, les enfants ont 7 ans, 4 ans et 2 ans.
OK.
Donc, mon gars était tout jeune et ma femme était sur le RQAP. Mm-hmm. Et mon nouveau professionnel, ils étaient dans un mauvais partenariat. Donc, on était pris là-dedans. Ça a fini en cul de poisson avec les avocats. Donc, en tant que tel, je me suis trouvé au mois de mai 2018. À rien avoir devant moi, sortir brûlé. Puis, la petite crise sur le Sunday, c'est que notre deuxième, Éléonore, a l'arthrite juvénile, puis était en pleine crise d'arthrite juvénile à ce moment-là. Donc, autant au niveau professionnel que personnel, rien n'allait dans notre vie. Puis, c'est là que ça fait des années que, en fait, depuis que j'avais rencontré ma femme, on avait l'idée de partir en road trip aux États-Unis, descendre jusqu'en Californie. Puis, on ne l'avait jamais fait, on ne l'avait jamais planifié. Puis, à un moment donné, j'ai simplement demandé si c'est tenté qu'on le mette tout de suite à notre agenda, qu'on se planifie de partir dans les prochains mois en road trip. Je pense qu'elle allait me dire non. Puis, j'avais besoin de la convaincre, puis elle m'a dit oui tout de suite. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a juste planifié notre premier road trip, puis que finalement, au mois de septembre 2018, on partait pour notre premier road trip qui a duré 7 mois.
Wow! J'ai des frissons. C'était comme une spirale qui descend, là, d'affaires, mauvaises nouvelles, puis de trucs qui vont pas bien. Puis là, vous avez décidé de casser ça, puis de partir à l'aventure. Une aventure, je comprends que vous en rêviez, mais que tu sais ça pouvait pas arriver parce que dans la vie de tous les jours, on dirait qu'il n'y a rien qui peut arriver comme ça sur un plateau d'argent. Là. Mais à un moment donné, vous êtes peut-être comme descendu assez bas dans cette spirale-là pour être capable de vous remonter et de dire, là, ça suit, on fait quelque chose de ce qui arrive.
Là. Oui, exactement. Puis, en tant que tel, avec le partenariat, c'est simple, là, il n'y avait pas d'argent qui rentrait au niveau de la famille, outre le RQAP. Il y avait de l'argent qui sortait. Donc, notre situation d'être en voyage ne pouvait pas être pire que celle qu'on vivait au Québec en soi, au niveau de nos finances. C'est là que en 4 mois, on a réduit le plus possible notre rythme de vie au Québec, donc au niveau de nos dépenses, ce qui nous a permis de, quand on est parti, il manquait seulement 2 000 $ par mois en termes de cash flow. Puis, on avait assez de REER pour survenir à nos besoins durant 2 ans. Donc, on se dit que au pire, on savait pas quand est-ce qu'on allait revenir à ce moment-là, mais on se dit au pire, on en a pour 2 ans à vivre ce mode de vie-là. Donc, on a assez d'économies pour ça. puis on s'ajustera en revenant au Québec.
Donc, est-ce que le plan, c'était de peut-être partir jusqu'à 2 ans sans revenir?
Oui.
Donc là, au niveau de, tu sais, quand on dit que t'es résident et tout ça, il était comme peut-être possible que vous ne le soyez plus jusqu'à un certain point, là.
Oui et non, parce que vu qu'on partait au mois de septembre, en fait, on peut partir à l'extérieur du Québec 6 mois par année, puis sans perdre les droits qu'on a au niveau de la RMQ, la référence, l'allocation canadienne pour enfants. Puis, une fois aux 7 ans, on a le droit à une année d'exemption. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est partir au mois de septembre 2018, faire toute l'année 2019 à l'extérieur, puis revenir avant le 30 juin 2020 au Québec.
Okay,
comme ça, on a respecté en soi les règles à ce niveau-là.
Mais en fait, c'est que vous prévalez en premier de votre 1 an au lieu de 6 mois. C'est ça?
C'est 6 mois par année. Puis,
je comprends.
Oui, c'est ça. Puis, on est capable de coller. C'est là que une année d'exemption aussi, on est capable de la coller. Donc, quelqu'un qui veut partir 2 ans du Québec pourrait partir le 1er juillet de l'année et revenir le 30 juin, 2 ans plus tard, puis sans avoir rien perdu au niveau de ses droits.
Ah, mais c'est excellent, ça. OK, génial. Donc, possiblement, vous revenez dans 2 ans, mais peut-être avant, on verra où la vie nous mène.
Oui. Donc, c'est là que, durant l'été de préparation pour le voyage, il y a des clients qui m'ont sollicité pour faire leur comptabilité, leur tenue de livre. Ça faisait au moins 4 ans que j'en faisais plus, que j'avais plus mon cabinet à la maison. Je dis oui, juste pour avoir une source de revenus en voyage. Puis finalement, en voyage, j'ai commencé à réaimer mon travail, donc de CPA, donc tout ce qui est la fin d'année, la tenue de livre, les déclarations d'impôts. Puis l'idée est venue à l'hiver, quelques mois après, de repartir mon cabinet officiellement. Puis on est revenu au Québec au début avril 2019.
Donc, finalement, vous n'étiez pas parti 1 an. Là. L'hiver, après votre départ, tu as comme eu l'idée de retourner dans tout ça, puis vous êtes revenu au printemps.
Exactement. Donc, pour ça. Puis, c'est là que, dès notre retour, je voulais repartir. Donc, on est reparti au mois de décembre 2019. Puis là, on est en voyage depuis le 15 décembre. Donc, pour notre deuxième road trip. On s'est rendu compte que être loin du Québec une longue période nous manque. Donc, autant au niveau de la famille que juste retrouver une stabilité. Parce qu'on est, en fait, on est parti en motorisé. Donc, on est en motorisé. Donc, on vit dans un motorisé 24 pieds, un classé. Puis, donc, c'est quand même petit comme maison. C'est certain que quand il fait beau comme où qu'on est présentement, ben on est à l'extérieur à longueur de journée. Par contre, c'est vraiment l'air commun à l'intérieur qui nous manque d'espace.
Oui, c'est ça, parce que vous devez pratiquement vivre dehors, sinon vous êtes un peu les uns par-dessus les autres.
Oui, exactement. Donc en fait, c'est l'air commun, c'est 3 pieds par 4 pieds en soi. Donc c'est plus petit qu'une table de cuisine là.
Wow! OK, donc vraiment, on vit dehors. Il faut que le couple soit solide et tout ça. Maintenant, avec les enfants, tout ça, c'est quand même un beau défi. OK, je veux revenir à avant le départ. Où est-ce que vous avez trouvé toutes vos réponses? Parce que, tu sais, l'idée est bonne, là, le rêve est là, le temps semble être le bon, mais comment vous mettez ça en place? Où est-ce que vous trouvez vos réponses?
Oui, on a listé toutes les contraintes qu'on avait pour faire le voyage. Entre autres, il y avait Florence qui commençait sa première année scolaire au mois de septembre. Donc, quand on partait, son année scolaire allait être commencée pour sa première année. Puis, c'est vrai que c'était le plus gros morceau en soi. C'était ça, d'être capable de la scolariser à la maison, sur la route. Puis, il y a une association, je ne me souviens pas du nom, dans la Naudière, qui supporte justement les familles qui font l'école à la maison. C'est là qu'on a eu le plus d'informations, puis surtout la bonne information. Parce qu'on a essayé de passer par le ministère de l'Éducation du Québec pour justement savoir comment procéder avec les commissions scolaires. Puis, c'est simple, on n'a jamais eu la bonne information de leur part. Donc, la bonne information, on l'a trouvée par l'organisme. Puis, en fait, c'est simple que ce qu'on a fait, c'est que, vu qu'on était, on savait pas quand est-ce qu'on venait, qu'on partait au moins pour 6 mois, on a désinscrit Florence de l'école. Donc, on n'aurait pas été obligé de la scolariser la première année. Mais on l'a fait quand même en achetant tout ce qui est les livres pédagogiques qu'il y avait disponibles pour un enfant de première année. On a aussi des amis que leur enfant rentrait en première année, donc on a pu suivre le programme qu'eux avaient. C'était plus simple pour nous.
Comment ça se fait, ça, concrètement? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est beau se dire, mettons, OK, on va prendre les livres puis on va lui passer la matière, là. Oui. Mais concrètement, oui. Dans un petit espace comme ça, quand on est en mouvement, vous faites ça pendant qu'on vit, tu sais, lui dire de s'asseoir quand vous êtes les parents, tu sais, puis qui ont l'habitude de ronchonner un peu avec les autres. Oui. C'est pas comme dans une classe, là, avec les deux autres qui courent en arrière. Tu sais, comment vous réussissez à mettre ça en place, la scolarisation?
Oui, en fait, la scolarisation à domicile, là, c'est simple, ça prend beaucoup moins de temps qu'une journée d'école. Donc, normalement, en une heure et demie par jour, toute la matière est vue au niveau du français et mathématiques. Après ça, c'est certain que par les activités, tout ce qui est les sciences, l'histoire, l'activité physique, ben, on l'intègre à nos journées. Ouais. Tout ce qui est aussi la langue seconde, donc l'anglais, on l'a intégré par la force des choses à nos journées. Donc, c'est vraiment pour les français et les mathématiques qu'il faut s'asseoir. Puis, en moyenne, on a passé après une heure par jour. Puis, je dirais c'est beaucoup la motivation de l'enfant. Avec puis c'est ma femme qui s'en occupe en soi. Puis, la relation, faire la coupure entre la mère et le professeur.
Ouais.
Donc, parce que veut pas, l'enfant, quand c'est une autre personne, autre que sa mère, va plus écouter que sa mère en soi. Donc, puis aussi la patience en soi. Donc, ma femme n'est pas, pas enseignante, elle est comptable comme moi. Donc, elle n'a pas nécessairement les skills au niveau éducatif. Donc,
c'est là que. Les limites, ils apprennent ça à la maison. Tu sais, ils testent les limites avec les parents. Mais là, le parent, c'est aussi le professeur. Donc, j'ai pas de mal à croire qu'il y a un défi, là.
Oui, exactement. Donc, pour ça. Puis, en fait, c'est. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? C'est au niveau des récompenses. Donc, si on est capable de lui mettre un délai pour son apprentissage. Donc, mettons, on a une heure à faire. On a les pages 4, 5, 6 et 8 à faire. Tu as tant de temps pour le faire. Puis après ça, on fait une activité en famille. Mais c'est à ce moment-là que ça fonctionne le mieux avec, avec notre pilier Florence.
OK.
Donc, puis sur la route, mais.
Vas-y.
Oui, sur la route en soi, en fait, on a fait beaucoup de kilomètres. Dans le premier voyage, on a fait quasiment 25 000 kilomètres. Puis, sûr qu'en déplacement, on en profitait pour faire l'école. Donc, ma femme avec les trois enfants était assise en arrière autour de la table de cuisine. On se permettait de que ma plus vieille fasse l'école sur la route. Puis, ça nous périme pas dans notre voyage en soi, là.
Ah, c'est ça, parce que vous pouvez continuer à avancer finalement.
Oui.
Maintenant, au niveau de votre deuxième, là, tu disais qu'elle, je pense, souffre d'arthrite juvénile.
Oui.
Donc ça, je ne suis pas une spécialiste médicale, mais ça doit demander des soins ou des injections ou pas vraiment?
Oui, en fait, sa première crise d'arthrite, elle a fait elle a commencé à l'automne 2018. Puis, on a su vraiment que c'était l'arthrite au mois de janvier suivant. Puis, c'est là qu'avant de partir, elle a eu des injections à ses articulations. Elle avait deux articulations touchées pour ça. Puis, elle a eu aussi les yeux avec une uvite, une inflammation aux yeux qui peut causer des glaucomes et d'autres éléments. Donc, elle a eu comme le pack Aesdil en soi. Donc, elle avait des infections aux yeux et aux articulations. Puis, c'est là qu'elle a bien réagi au traitement. Puis, on a été capable de s'entendre avec les spécialistes parce que veut pas rester au Québec avec le froid, avec l'humidité, c'était pas l'idéal pour elle non plus. Ouais. Donc tomber dans un climat tempéré comme qu'on est présentement, c'est l'idéal pour elle. Ce que ça m'a fait, c'est au mois de septembre, juste avant de partir, elle a rencontré son rhumatologue, son physiothérapeute et l'ophtalmo au niveau de ses yeux. L'ophtalmo, on était obligé d'être suivi aux 3 mois. Donc, 3 mois plus tard, on était en Floride à faire un test des yeux pour elle, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'inflammation. Puis, elle n'avait pas à ce moment-là non plus. Puis, c'est là qu'en revenant au mois d'avril, ça a été son autre rendez-vous en soi. Au niveau du rhumatologue, elle était comme en rémission. Donc, elle avait bien réalisé au niveau des médicaments. Elle n'en prenait plus depuis 2 mois à ce moment-là. Donc, son état était comme stabilisé. Mais si elle avait fait une crise, bien, c'est simple, on aurait pris l'avion puis on serait revenu au Québec tout simplement. Donc, pour être capable d'être suivi pour ça.
OK, donc vous faites les suivis, mais s'il y avait un état de crise, vous seriez... parce que je ne sais pas à quel point il y a une urgence dans la crise, là, mais vous pourriez rentrer au Québec et la traiter là-bas.
Oui, exactement. Puis, en fait, c'est pour mettre un petit peu une nuance, c'est comme si ses articulations sautaient comme un grain de popcorn. Donc, c'est là que ça devient non flexible, ses articulations enflent en soi. Puis, pour elle, c'est les deux articulations qui ont été touchées, c'est sa cheville droite puis sa hanche droite. Donc, ce qui fait en sorte que à son pire moment de cette crise qu'elle a eue, elle n'était plus capable de marcher.
Ça plie plus, là. C'est ça, ça.
Non, exactement. Donc, ça faisait trop mal pour ça. Puis, c'est là que, pour nous, bien, on savait quoi regarder avec l'aide de son rhumatologue. Puis, on a été super bien aidés pour nous permettre de voyager tout en sachant qu'on pouvait subir des crises à l'extérieur. Donc, ils ont été emballés pour nous de ce qu'on mettait en place dans notre vie.
Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est ça. Ça donne l'impression qu'on s'en ajoute, mais finalement, non. On change de focus de place ou on change de mal de place, ça aide. Par rapport à ça, j'imagine que au niveau des assurances, ça doit être des frais aussi que vous devez prévoir de façon particulière. Je veux dire, tout le monde doit prendre une assurance en voyageant, mais là, j'imagine que dans votre cas, vous devez avoir scruté ça un peu plus à la loupe avant de partir.
Oui, puis c'est certain que pour vu la situation, Éléonore préexistait avant le départ, mais il n'y avait pas d'assurance qui voulait couvrir ce risque-là. Donc, c'est certain que faisait une crise. En fait, les crises qu'elle fait n'ont pas d'atteinte sur sa vie, donc elle risque pas de mourir en soi, juste que c'est ses articulations qui bloquent complètement. Donc, prendre l'avion, c'est pas problématique. Donc, on a du temps pour bien traiter. Ensuite, ça fait une crise. Donc, c'est là que, dans le pire des cas, on s'est dit qu'on allait prendre un billet d'avion pour revenir s'il y a de quoi qui survenait. Puis là, ça fait 2 ans et demi depuis sa première crise. Puis là, elle en a fait seulement une. Puis elle est en pleine santé. Puis l'été passé, elle a gagné une course à pied. Donc, il n'y a pas de différence au niveau des articulations entre elle et un autre enfant.
Est-ce que c'est quelque chose qui s'en va avec le temps, ça? Ou quand on dit que c'est arthrite juvénile, est-ce que c'est parce que probablement qu'en vieillissant, ça va disparaître ou ça ne veut pas dire?
Ça fait partie d'elle. Donc, c'est une maladie chronique en soi qui va être toujours dans son sang. Le juvénile, c'est que ça apparaît sur l'enfant, mais c'est la personne entre 2 et 4 ans. Donc, puis c'est à ce moment-là que ça a apparu pour elle. C'est souvent des facteurs de stress qui causent des crises. Mais en fait, ils ne savent pas exactement c'est quoi. En période de stress, souvent, il y a des crises qui apparaissent. Quand les hormones ont des variations, donc la puberté pour elle va être à risque en soi qu'elle fasse une autre crise. Ça peut être la seule crise qu'elle fait à vie, comme qu'elle pourrait en faire tous les 3 mois. Donc, ils n'ont pas été capables de de découvrir encore la cause à effet. Les traitements médicaux sont de mieux en mieux. C'est-à-dire que si ma fille serait née v'là 20 ans, elle ne masserait plus présentement. Donc, puis pour le restant de sa vie. Mais là, les avancées technologiques ont fait en sorte qu'ils sont capables de traiter à la source le problème.
Mais c'est incroyable. Puis en même temps, bien, ouais. On lui souhaite de peut-être se trouver une bonne raison pour aller habiter un peu plus au sud, puis de rester dans un climat peut-être favorable pour elle. Sinon, pour ce qui est de ta conjointe, ta femme, elle est comptable aussi, tu disais. Est-ce qu'elle travaille aussi à distance ou non?
Non. En fait, c'est sûr que la 3, c'est plus utile en soi. Puis surtout l'année passée, quand on est parti, notre garçon avait 7 mois. Donc, c'était beaucoup... en fait, c'est occupé de la famille et de l'école à ma fille. Puis, c'est certain que là, dans mon cabinet à moi, elle travaille de plus en plus. Je dirais que présentement, ça prend une demi-journée par semaine en voyant ce qu'elle travaille avec moi. Puis là, on va revenir au mois d'avril au Québec. Au mois de mars-avril au Québec, puis on va faire garder les enfants pour qu'elles puissent venir travailler avec moi de 3 à 4 jours semaine.
OK. Puis là, celle de 7 ans, est-ce qu'elle va entrer à l'école ou vous allez continuer l'école à la maison?
On va continuer l'école à la maison pour finir l'année scolaire, pour ne pas la rentrer en fin d'année en soi. Puis, en fait, le plan, c'est que l'année prochaine, notre deuxième va tomber en maternelle. Donc, on va rester au Québec pour la scolarisation des enfants. Donc, on va aller rentrer à l'école régulière à partir du mois de septembre 2020. Puis, par contre, ça ne va pas nous empêcher de voyager parce que on va partir des 1 mois en voyage quand même là. Donc, on va seulement s'entendre avec les professeurs pour prendre les devoirs, pour être sûr que l'enfant puisse continuer son évolution scolaire. Puis, on va partir des mois à la fois, à la place d'un long voyage comme qu'on fait présentement.
Parce que là, vous avez la piqûre, là.
Oui, là, c'est sérieusement. Puis là, on vient d'arriver en Californie depuis 2 jours. Puis, sérieusement, je me vois mal revenir au Québec au mois de mars.
Ah, hein? On a juste à se promener un petit peu sur les internets, puis ça enlève le goût pour la période actuelle, du moins. Là. Si on revenait à toute l'organisation du départ, au départ, tout ça, est-ce qu'il y a comme des embûches que vous aviez rencontrées, que peut-être qu'avec du recul, vous feriez ça différemment? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, tu sais, que peut-être qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas, là, mais que maintenant, en le refaisant, tu sais, ça se fait différemment?
En fait, quand on a pris la décision de partir, il n'y avait pas beaucoup de choses qu'on faisait qui étaient automatisées dans notre vie. T'expliques. Par exemple, le courrier, juste le fait de recevoir la poste. On a aussi des immeubles à revenus, donc on reçoit quand même un courrier par mois, puis on le recevait par la poste, on le gardait papier. On a mis en place, maintenant c'est une entreprise qui les reçoit, sont scannés au fur et à mesure. Pour nous, ça situe notre classement, on a accès de n'importe où tout le temps. Donc c'est plus des ajouts qu'on a fait dans notre vie pour faciliter que même une fois revenu au Québec, qu'on garde parce qu'on sauve du temps maintenant grâce à ça.
Puis malgré, tu sais, parce qu'il y a quand même un niveau de difficulté, tu sais, je vais donner un exemple. Là. Aller en camping, là, par exemple, c'est un moment relax, détendu, loin de bon tout ce qui brasse, puis de la vie qui va trop vite, etc. Mais en même temps, il faut ramasser les gamelles, puis la tente, puis les sleepings, puis gna, puis tu sais, comme penser à la bouffe, puis organiser tout ça, puis après ça, pour revenir, puis tout nettoyer ça. Tu sais, je veux dire, l'avantage versus l'inconvénient, mais tu pèses ça comment dans la balance? C'est toute l'organisation autour de ça avant, puis en revenant, où c'est très, très simple, on part, puis on revient.
Mais, mettons, pour notre deuxième voyage, là, au mois de décembre, on partait le 15, on a commencé à préparer notre stock le 13 décembre. On était set-upés pour pouvoir partir rapidement. Maintenant, c'est juste, mettons, le forfait cellulaire. L'année passée, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une autre ligne au niveau des États-Unis pour être capable de recevoir les appels, puis il y avait un transfert de ligne. Maintenant, mon forfait cellulaire couvre l'Amérique du Nord. Donc, juste ça fait en sorte que il y a pas d'incidence, autant au niveau de mes clients qu'au niveau de la famille. Ils ont mon numéro de téléphone, puis ils m'appellent directement. J'ai maintenant une clé Internet qui nous suit partout, en fait, on est capable de recevoir, qu'on a accès limité à Internet dans 200 pays dans le monde. Donc, ça fait en sorte qu'on est libre maintenant, de peu importe où on s'en va, d'être capable d'avoir un Internet relativement stable. J'en ai parlé un petit peu avant que j'avais des problèmes les deux dernières semaines. En fait, c'est plus des contraintes comme ça qu'on avait par le passé, qu'on a été capable de trouver des solutions pour la continuité. Sinon, je te dirais que oui, Gustave, en fait, mon motoriste s'appelle Gustave, donc c'est pas un quatrième enfant. Donc, pour ça, vu que tout est au même endroit, notre lit est là, c'est notre cocon familial sur la route, c'est beaucoup plus simple, je dirais, voyager en motoriste comme qu'on le fait, que si on ferait du Airbnb de façon constante. Parce que là, réellement, dans un Airbnb, on serait dans nos bagages continuellement à les faire et les redéfaire. Oui, on a beaucoup moins de place, mais on a la place pour nous, les choses qui sont importantes pour nous.
C'est ça, puis dans le fond, vous déplacez, une petite maison que vous déplacez, tu sais, donc vous n'avez pas besoin de vous réinstaller à chaque fois que vous vous déplacez, ça c'est un gros plus, de vous ouvrir la porte, puis c'est là que ça se passe.
Oui, c'est comment ça?
Donc, qu'est-ce que, tu sais, mettons, là, les trois choses que vous appréciez le plus dans ce style de vie-là, ce serait quoi?
La nouveauté. Donc, vu qu'on est en déplacement constant, c'est là qu'on fait des nouvelles activités, qu'on voit des nouvelles choses, qu'on visite des nouveaux parcs. C'est vraiment là l'aspect nouveau. Puis, je te casse pas que quand on est revenu au Québec au mois d'avril l'année passée, moi personnellement, j'ai eu un gros blues de justement tomber dans la routine. Donc, du quotidien. Ouais, les vieilles pantoufles. Puis, pour ça. Après ça, c'est la proximité au niveau de la famille. Mes trois enfants sont soudés ensemble, tous les trois. Oui, ça chale, mais les trois s'aiment. Puis, on a vu la différence entre mes deux plus vieilles, oui, ils jouaient ensemble avant, mais maintenant, c'est des partenaires, là, c'est plus pareil. Puis là, mon gars, il se rajoute à ça maintenant. Puis les trois sont soudés, puis il y a de l'entraide, de la belle entraide entre les trois.
Puis de l'autre côté, qu'est-ce qui vous manque peut-être le plus ou que vous trouvez qui est moins agréable?
C'est sûr que les contacts humains, c'est avec la famille, avec les amis, avec les collègues, ça nous manque. C'est drôle, hein, mais je parlais de nouveauté tantôt, mais des fois, la stabilité, c'est le fun. Donc, pour pouvoir se reposer, quand on est confronté à la nouveauté continuelle, on se fatigue plus vite en soi. Puis
la stimulation, c'est là que... toujours une stimulation. Ouais. Là, c'est le fun, mais en même temps, c'est ça, on est toujours en train de spinner.
Vraiment. Puis on a mal débuté l'année passée parce qu'on fait un gros itinéraire avec plein de places à voir, puis on était en déplacement aux 2-3 jours. Puis après 2 mois comme ça, tout le monde était brûlé. Il y avait de la tension dans l'air. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on était dans un beat plus smooth pour être capable d'apprécier le voyage.
Donc là, OK, il va y avoir un retour le mars-avril. Puis éventuellement, oui. Après ça, l'année prochaine, là, ça va être des mois ici, des mois là. Mais au bout du compte, c'est quoi les prochains projets? Parce que, je veux dire, on a la piqûre, mais j'imagine que ça ne s'arrêtera pas l'année prochaine. Donc, est-ce que c'est toujours aux États-Unis? Est-ce que c'est toujours un mois après?
En fait, on va revenir du 15 mars au 30 avril au Québec. Donc, en fait, pour la période des impôts. Une portion qui est capable de faire à distance. Par contre, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de traiter dans le virtuel. Donc, du 15 mars jusqu'au 30 avril, on va être au Québec pour la période des impôts. Puis dès que c'est fini, on redécolle pour revenir en Californie. Donc, on va avoir entreposé durant un mois et demi Gustave en Californie. Donc, on va revenir en avion le 15 mars. Puis au retour, on va faire Californie-Oregon pour revenir à la fin juin au Québec pour pouvoir louer Gustave durant tout l'été au Québec. Donc, parce que aussi, une chose qu'on a mis en place, c'est que Gustave, on le loue quand on est au Québec l'été pour être capable qu'il ne nous coûte rien annuellement.
Ben oui, c'est ça, c'est génial ce concept-là. Puis, quand vous le laissez en entrepôt en Californie, est-ce que c'est indiscret de demander si c'est bien dispendieux? Ça ressemble à quoi?
Ben, on l'a fait l'année passée durant 2 semaines. Ça a coûté 100 US d'entreposage. Là, je n'ai pas encore regardé vu que c'est quand même dans une coupe de semaines, coupe de mois. Donc, mais je m'attends que ça me coûte peut-être un 300 pour un mois et demi. Donc, pas plus que ça en soi.
C'est-à-dire que vous sauvez beaucoup de temps parce que vous ne rentrez pas au Québec pour revenir ensuite au même endroit ou presque.
Ouais.
Vous sauvez beaucoup de temps, puis en même temps, ben, les sous, c'est sûr qu'il y a des billets d'avion, mais avec l'essence et tout ça, c'est pas négligeable non plus.
Oui. Oui, exactement. Donc, puis après ça, l'été, on va la passer au Québec. On risque de partir un mois, sûrement au Portugal, à l'automne prochain. Donc, parce que, en fait, c'est simple, nos choix de destination, c'est par rapport au coût de la vie qu'on les prend. On veut s'assurer que quand on voit quelque part, que notre coût de la vie soit en bas de celui au Québec. Puis c'est un peu ça en soi qu'on vit présentement aux États-Unis, c'est que ça nous coûte moins cher être en voyage que habiter au Québec présentement.
Mais comment ça?
Parce que, mettons, au niveau de l'épicerie, c'est environ un 20% de moins aux États-Unis versus le Québec. Au niveau de l'essence, sauf en Californie, que là, on va rester longtemps, normalement, c'est un 20 à 30% de moins. Puis, au niveau du logement, ben, ça nous coûte moins cher rester dans un terrain de camping que louer un logement au Québec en soi. Donc, puis jusqu'à maintenant, mais on fait beaucoup de boondocking, donc des endroits dans des parcs nationaux, dans des Walmart gratuits où on peut dormir. Puis quand on a besoin de stabilité, ben c'est là qu'on se prend une semaine au même camping. Puis ça nous revient à peu près à 200 US pour la semaine à être dans un camping.
Est-ce que Gustave a une douche?
Oui, Gustave a une douche. Puis, en fait, avec le réservoir d'eau, on est capable de faire après 12 minutes de douche au total. Donc, puis en fait, c'est pas le réservoir d'eau, mais c'est plus le réservoir d'eau grise où plus ça va, qui est plus petit, il faut respecter. Puis, c'est là que les terrains de camping, c'est au moment qu'on a besoin de vider Gustave et de la remplir, puis aussi profiter du luxe d'avoir dans des salles de bain plus grandes. Là. Parce que c'est certain que si, mettons, pour la grandeur de la douche, c'est comme si je levais mon coude en soi, ben mon épaule et mon coude touchent sur deux murs. Donc, c'est quand même petit comme douche.
Oui, c'est ça. Ça dépanne, mais c'est pas...
Non, c'est pas l'idéal. Là.
C'est ça, c'est mieux sur le terrain de camping. Ouais. Des règles qu'on devrait connaître? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on devrait connaître là, pour être capable de vivre ce style de vie-là? Si quelqu'un écoute, là, parce que en fait, il y a beaucoup d'expats qui vont suivre ce podcast-là, mais il y a aussi ceux qui voudraient être expats, mais peut-être qu'au fond, c'est pas vraiment être expat qui veulent, mais plus digital nomade comme ça. Donc, rentrer au Québec pour demeurer un résident du Québec, etc., puis profiter des avantages que ça apporte. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on devrait savoir quand on recherche à vivre ce style de vie-là pour ne pas se tromper?
En fait, des règles à avoir, j'en ai parlé un peu au niveau du 6 mois à l'extérieur du pays. Donc, au niveau de la RAMQ, donc le régime d'assurance médicaments du Québec, pour être capable d'être couvert par ça annuellement, il ne faut pas être plus de 6 mois par année à l'extérieur du pays. Par contre, les voyages de moins de 21 jours ne comptent pas. Donc, si par exemple, vous voulez voyager 3 semaines sur 4 à tous les mois, mais vous pouvez, puis vous allez continuer à être assuré par la RAMQ. De l'autre côté, c'est tous les liens qu'on a avec le Québec, il ne faut pas les couvrir, les couper. Donc, le permis de conduire, la carte d'assurance, le médicament, justement, avoir un adresse physique au Québec. Donc, laisser le plus de liens possible avec le Québec pour s'assurer que, autant au niveau fiscal qu'au niveau, de la RAMQ, qu'on soit considéré comme un citoyen du Québec. Donc, moi, personnellement, je paye mes impôts au Québec en soi. Puis, en fait, grâce à ça, mes primes d'assurance médicaments sont plus basses. Si je ne sais pas quoi avec la RAMQ, mon assurance voyage, présentement, me coûterait 3 fois plus cher que ce qu'elle me coûte.
Parce que, tu sais, je veux dire, c'est évident quand je dis, moi, je paye mes impôts aux États-Unis parce que je travaille à partir des États-Unis. Puis toi, ben, comme ton travail en tant que tel se fait pour le Québec, ton bureau est au Québec, ta maison est au Québec, etc. Puis t'es juste, entre guillemets, en voyage. Mais la ligne exacte, elle est où entre toi et moi, là, pour dire, à partir de là, tu paies tes impôts au Canada ou au Québec ou aux États-Unis?
Oui. En fait, c'est à partir du moment que tous tes liens sont coupés. As-tu encore ton permis de conduire du Québec? Hein?
Non.
Non, ben c'est un des principaux points, c'est justement là. Donc, à partir du moment que tu renonces à ton permis de conduire au Québec, tu renonces à ta carte de la RAMQ du Québec, que tu n'as plus d'adresse physique au niveau de la poste au Québec, tu n'as pas de point de chute, mettons, de pied à terre quand tu vas revenir. C'est tous des éléments qui rentrent en ligne de compte dans le fait que un résident du Québec ou pas. L'autre chose aussi, c'est que moi, sous comptable, j'offre mes services à des Québécois en soi. Les règles américaines, je les connais un petit peu, mais pas assez à l'aise pour faire des services de comptabilité ou d'impôts au niveau des États-Unis. Donc, c'est là que toute ma clientèle est au Québec. Donc, mes services sont là également. C'est à part le fait physiquement d'être à l'extérieur, tout me rattache au Québec en soi.
C'est ça, OK. Puis au fond, je suis en train de me dire que tu pourrais probablement aider des gens qui voudraient vivre le même genre d'expérience que toi au niveau fiscal là, à démêler leurs affaires pour que leur projet fonctionne. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre votre aventure ou vous faites ça plutôt de façon non publique?
Oui, on a deux pages. Donc, on a le groupe comptable créateur de liberté tout au pluriel. Ça, on l'a créé juste avant de partir à notre premier voyage. Donc, c'est un groupe public sur Facebook où que vous pouvez suivre nos aventures. Je dirais que notre premier voyage, on a beaucoup, beaucoup publié. Donc, on publiait 3-4 fois par jour les activités. Puis, on était beaucoup en mode plus activité l'année passée. Cette année, le voyage, c'est vraiment pour moi une conciliation voyage-travail. Donc, on publie un peu moins. Par contre, quand on publie, c'est plus du contenu d'information, donc en soi, là-dessus. Et pour tout ce qui trait à la liberté financière, parce que durant le premier voyage, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que entre mon style de vie d'avant puis mon style de nomade, nomade à temps partiel comme j'ai vu là, il n'y avait pas grand-chose à mettre en place dans ma vie pour me permettre de le faire. Donc, puis en fait, je peux me présenter comme être libre financièrement, présentement, grâce aux choix que j'ai mis en place dans ma vie. Puis, c'est là que on a créé la page CPA Créateur de Liberté. Puis, en fait, tous mes services en termes de comptable, en termes de coaching financier, pour être capable d'aider les gens à se libérer de leurs finances, je les publie là-dessus.
Donc, là, il y a le groupe comptable Créateur de Liberté. Puis l'autre, le nom, c'est quoi?
CPA Créateur de Liberté.
CPA Créateur de Liberté. On va aller voir ça certain. C'est super intéressant. Puis, eh bien, là, écoute, j'arrive vers la fin de l'entrevue. J'ai des petites questions à te poser en rafale. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter avant. Je pense que tantôt, je t'ai coupé la parole avec le petit lag Internet.
En fait, est-ce que tu me permets de présenter mes services?
Oui, absolument. Vas-y.
OK, c'est bon. Donc, en fait, c'est un cabinet comptable 100% virtuel. Donc, en fait, mon pied à terre au Québec est à Joliette. Par contre, mes clients sont un peu partout au Québec. Donc, on offre des services de tenue livre, de déclaration d'impôts personnel ou corporatif, de fin d'année corporative également. Puis, l'autre volet, c'est du coaching financier. Donc, aider les personnes avec leurs finances pour être capable de simplifier leur mode de vie pour leur permettre de vivre leur rêve. Que ce soit d'un rêve de voyage ou un rêve d'un nouvel enfant ou construire une maison, peu importe le rêve en soi, c'est pas ça dans la guerre. C'est vraiment quel chemin suivre pour bien le vivre au niveau financièrement. C'est là que vous aidez les personnes à mettre en place leurs finances pour être capable de bien le vivre.
J'adore ça. J'adore ça. Écoute, où est-ce qu'on peut trouver? Sinon, il doit y avoir un site Internet aussi.
Oui. Donc, il y a 123impôts.com pour les impôts personnels. Donc, présentement, on est au mois de janvier, donc c'est vraiment le début du pool d'impôts pour ça. Donc, 123impôts.com. Et j'ai aussi mon site Internet, le chiffre 1librefinance.com.
Moi, je suis en train de prendre ça en note. Écoute, c'est super intéressant. J'adore ça. Puis, je pense que c'est justement de ça souvent que les gens ont besoin de clarté, de clarification, d'informations pour mettre leurs finances en place puis réaliser leurs projets. Tu sais, on dirait que des fois, on a juste l'impression qu'on ne peut pas nécessairement, mais ce n'est pas vrai. Quand on a les outils, il faut aller voir des professionnels pour connaître les réponses aux questions qu'on se pose. Fait qu'un gros, gros merci. Maintenant, j'arrive dans mes questions. La première étant, les questions qui tuent, la première étant, quelle est ta meilleure série de Netflix à vie? Si évidemment, t'en suis.
Oui. La meilleure à vie. C'est une bonne question, ça. Hey, tu me permets-tu d'ouvrir mon Netflix? Qu'est-ce que je vais te dire si vous écoutez présentement? En fait, présentement, j'écoute Arise. Donc, puis je trippe vraiment sur la série. C'est une histoire d'une secte, une confrérie à Londres. Donc, pour ça. Sinon, j'ai pas de mémoire au niveau des noms des séries. Il y a Colony, Salvation, Naufragé. En fait, j'écoute quand même beaucoup de séries. Donc, je te dirais, la plus particulière que j'ai vraiment adorée, c'est Ozark. C'est O-Z-A-R-K.
OK.
Donc, pour ça, puis...
OK. J'irai voir c'est quoi parce que j'ai jamais entendu Ozark. mais je vais aller voir c'est quoi, je suis curieuse. Sinon, est-ce que tu écoutes des podcasts? Si oui, c'est quoi le dernier que tu as écouté?
Oui, j'en écoute. Le dernier, c'est La douceur financière avec Geneviève Paris. Mm-hmm. Donc, Geneviève est devenue amie à moi. Puis, en fait, j'ai été aussi invité deux ou trois fois sur son podcast pour parler de fiscalité. Puis, en fait, c'est vrai, c'est un des podcasts que je suis religieusement parce que c'est en ligne avec ma vision des finances. Donc, apporter de la douceur à ses finances pour être capable de bien vivre notre vie.
Absolument. Bien, en fait, je t'ai connue par Geneviève. C'est vrai que vous avez vraiment un propos qui se rejoint beaucoup, des valeurs similaires. Puis, on dirait qu'on le sent. On peut parler d'argent, que ce soit comme une agression, là, c'est super. est-ce que tu es plus du type livre ou audiobook et qu'est-ce que tu lis présentement?
C'est audiobook, vraiment plus. Puis là, durant que je te parle, j'ouvre l'application Audible parce que j'ai pas de mémoire. présentement, c'est 1984 que j'écoute. Donc, c'est pas un livre de croissance personnelle, c'est vraiment une histoire. Mais ça fait un beau parallèle avec le rythme de vie capitaliste, puis les problèmes que ça peut engendrer dans le futur. Sinon, en termes de croissance personnelle, le dernier que j'ai écouté,
T'es en train de regarder dans ton...
Oui, exactement. c'est comment se faire des amis et influencer. Les 4 heures Toltec, la semaine de 4 heures. En fait, pour moi, la semaine de 4 heures, c'était une réelle révélation, autant au niveau personnel que professionnel. Quoi mettre en place pour moi dans l'automatisation de ma vie, donc en soi. Puis je dis ma vie parce que c'est autant personnel que professionnel. Il y a plein de choses qu'on prend du temps dans notre quotidien qu'on ne devrait pas prendre du temps pour ça. Puis ça fait en sorte qu'on est capable d'avoir plus de temps pour qu'est-ce qu'on a vraiment pour nous.
Écoute, j'avais déjà entendu le titre de ce livre-là, puis j'avais oublié. Puis là, maintenant, on doit avoir une mémoire à peu près similaire. Mais maintenant, je vais le rechercher. Là, je l'ai pris en note parce que c'est vrai que j'avais effectivement entendu dire que c'était un super bon livre. Maintenant, deux dernières questions. Si je te donnais un billet d'avion pour aller vivre pendant un an dans la destination de ton choix, ce serait laquelle?
Un an. Je dirais l'Australie. En fait, tantôt on parlait de voyager un mois, mais il y a l'Australie que j'aimerais ça vraiment y aller sur une longue période. Donc, être capable de faire le tour en motorisé, ça ne pourra pas être avec Gustave, mais faire le tour de l'Australie en motorisé, puis aussi en profiter pour aller en Nouvelle-Zélande qui est juste à côté.
Ah ouais, c'est ça. Ben oui, parce qu'une fois rendu à l'autre bout, là. Il me semble qu'il faut faire le tour.
c'est ça.
Le jour où tu te retrouves aussi loin, il faut en profiter. Oui. Dernière question, est-ce que tu penses que... Ben là, normalement, ma question, c'est est-ce que tu penses que l'on est expat ou qu'on le devient? Je vais te demander, est-ce que tu penses que l'on devient ou que l'on est un digital nomade? Est-ce que c'est ce style de vie-là ou tu l'as développé?
Je l'ai développé. Certains que j'ai toujours eu le goût de l'aventure. Puis un de mes regrets, c'est de ne pas avoir parti en pack-sack après le secondaire, là, donc en avoir profité pour partir, mettons, un an. Mais en soi, c'est ça qu'il faut aimer, de découvrir la nouveauté, se mettre au défi au quotidien. Puis en fait, si ça fait partie de nous, ben en fait. Peut-être qu'on l'est déjà nomade, puis c'est pas une option qui nous a été présentée quand on était jeune.
Oui, c'est ça. Ben, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça se développe. On l'est peut-être un peu au début, ça se développe, mais c'est que plus on y goûte, je trouve plus ça devient comme nécessaire aussi.
Oui. Vraiment.
Ben écoute, Pierre-Olivier, un gros merci pour d'abord ton récit. Là, j'avais des frissons en partant avec ce qui vous a amené à aller vivre ça. C'est incroyable, c'est super, c'est vraiment beau. Puis ensuite, toutes les informations hyper pertinentes que tu nous as données pour toutes les personnes qui vont vouloir ou pouvoir planifier le coup puis vivre ce genre d'aventure-là, c'est extraordinaire. Puis j'invite les gens à aller te trouver sur Facebook, groupe comptable Créateur de Liberté ou Liberté financière, CPA Créateur de Liberté et à tes deux adresses internet 123impôts.com et 1librefinance.com. Je me suis pas trompée.
Exactement.
Ben, un très grand merci, c'était super, super intéressant.
Donc, un gros merci à toi de l'invitation. Donc, ça m'a fait un réel plaisir.
Cet épisode réconcilie à mes yeux l'envie de partir à l'aventure du Québécois avec l'expatriation sans attache et sans filet, en ce qu'il explique comment une personne peut arriver à ne pas s'expatrier totalement, mais à tout de même aller vivre des aventures qui seront sans doute le guider vers le meilleur choix pour lui ou elle. Si vous connaissez quelqu'un qui rêve d'expatriation, mais qui ne sait pas vraiment par quel bout commencer, vous pourriez le référer à cet épisode. Qui sait? Ce serait peut-être sa porte d'entrée. Restez avec nous pour découvrir la vie d'expat du Québec sous tous les angles et obtenir des outils pour réussir la vôtre. Pour poursuivre l'écoute du podcast et ne pas manquer d'épisodes, je vous invite à vous abonner à celui-ci Si vous avez aimé le contenu, ce serait vraiment apprécié afin de passer le mot, que vous laissiez une review en commentaire et que vous le partagiez sur vos réseaux sociaux en mentionnant ce qui vous a accroché le plus. N'oubliez pas de me taguer Texas Mama Blog ou Texas Mama Blog Expat. Merci!